C'est par le travail que la femme a en grande partie franchi la distance qui la séparait du mâle. C'est le travail qui peut seul lui garantir une liberté concrète. Dès qu'elle cesse d'être une parasite, le système fondé sur sa dépendance s'écroule. Entre elle et l'univers, il n'est plus besoin d'un médiateur masculin. Simone de Beauvoir, La femme indépendante, extrait du deuxième sexe. Bonjour et bienvenue sur Art au féminin. Je suis Algia, fondatrice de cette chaîne de podcast, et je suis ravie de vous retrouver pour un tout nouveau épisode qui me permet encore une fois de partager avec vous l'art et l'histoire des femmes artistes d'hier et d'aujourd'hui. Toujours en lien avec la saison 4, les femmes ont-elles eu une renaissance, qui est aussi le titre du premier épisode de cette saison, épisode où j'ai partagé avec vous mes recherches sur cette grande partie de l'histoire, période du renouveau artistique, littéraire et scientifique. La période qui s'épanouit sur près de 3 siècles, symbole d'une révolution de la pensée et de tous les champs artistiques. À travers l'épisode « Les femmes ont-elles eu une renaissance ?», je vous ai donc parlé de la place des femmes artistes à cette période tout en évoquant le nom de quelques artistes ayant marqué cette période de l'histoire, leur consacrant ainsi un épisode par artiste. Il y a donc eu un épisode sur Plotilla Nelly, Lavinia Fontana, Sofonisba Anguissola et enfin Artemisia Gentileschi. Lors du précédent épisode, qui devait être le dernier de cette saison, j'ai donc partagé avec vous l'histoire et l'art de Artemisia Gentileschi, féministe de la Renaissance. Un épisode que je vous invite bien sûr à écouter et partager si ce n'est pas déjà fait. Lors de cette saison, vous étiez nombreuses à me parler d'une autre artiste de la Renaissance, l'artiste Elisabetta Cirani. Suite à vos retours, j'ai eu envie de vous offrir cet épisode bonus sur celle qui fut l'une des plus grandes artistes de la période de la Renaissance. Celle qui, malgré sa courte carrière artistique, car morte trop jeune, a produit plusieurs tableaux, dessins et gravures. Un peu moins de 190 tableaux qu'elle a eu l'intelligence de répertorier dans un carnet. Celle qui fut formée dans l'atelier de son père, consciente de ce privilège et a eu envie d'ouvrir sa propre école de peinture et former d'autres femmes. Celle qui fut à la tête de l'atelier de son père, celle qui consacra sa vie pour son art, Elisabetta Cirani, c'est sur Art au féminin. Bonne écoute! L'artiste peintre et graveuse Elisabetta Cirani a produit tout au long de sa courte carrière plusieurs dessins, gravures et environ 190 peintures qu'elle a eu l'intelligence de signer et répertorier dans un carnet, évitant ainsi que ses peintures ne soient attribuées à d'autres artistes comme son père, comme cela fut le cas pour plusieurs autres artistes de son époque, comme par exemple Artemisia Gentileschi. Elle avait une façon bien à elle de peindre, lui permettant de mettre en avant le sujet de la femme forte. Je pense ici à Portia se blessant à la cuisse, exécutée en 1664, ou alors Judith tenant la tête d'Holoferne, exécutée entre 1655 et 1665, et aussi à Timoclée précipite le capitaine d'Alexandre dans un puits. Cette dernière est l'une des plus célèbres œuvres d'Elisabetta Cirani. Alors que d'autres artistes préfèrent mettre en avant l'histoire de Timoclée amenée devant Alexandre coupable, faible et parfois nu, Elisabetta Cirani, quant à elle, préfère mettre en avant l'histoire d'une femme forte et met par la même occasion en avant l'un des rares sujets de l'histoire de l'art, la violence d'une femme contre un homme. Comme son nom l'indique, cette huile sur toile que vous pouvez admirer au musée Capodimonte à Naples représente une femme vêtue d'une robe noire, renversant un homme vêtu d'un uniforme romain au fond d'un puits. Cette femme, qui semble forte, courageuse et à la fois sereine, est Timoclée. L'homme est l'un des capitaines de cavalerie d'Alexandre le Grand. La scène se déroule en 335 avant Jésus-Christ. Après l'avoir violée, le capitaine exige d'elle de lui révéler où se cachent son argent et ses bijoux. Timoclée lui indique que ses biens sont en sécurité dans le puits de son jardin. Au moment où l'homme se penche pour regarder, Timoclée en profite pour le faire basculer et le jeter au fond du puits et termine de l'achever en lui jetant de lourdes pierres. Anne Larue, dans son ouvrage « Histoire de l'art d'un nouveau genre » aux éditions Max Milo, écrit au sujet de ce tableau « Timoclée jette le violeur dans le puits et, ce faisant, semble le violer en retour. C'est la femme qui, dans la peinture, écartait violemment les jambes de l'homme, son sexe à lui étant placé au centre de la composition, vulnérable sous un morceau de tissu rose tendre. Le capitaine semble démembré comme une marionnette, écho du viol indirectement mis en scène avec cette inversion des rôles. » J'en profite aussi pour me permettre une petite parenthèse et ajouter que les viols de guerre ne datent pas d'aujourd'hui, comme nous pouvons le constater par exemple à travers cette histoire. La suite de l'histoire raconte que Timoclée se retrouve ligoté par des officiers pour être présenté à Alexandre le Grand qui vient de s'emparer de Thèbes. La femme, fidèle à elle-même, reconnaît et assume le meurtre tout en expliquant pourquoi. Alexandre la libère, en même temps, j'ai envie de vous dire, c'est de la légitime défense. Mais alors attention, il ne s'agit pas ici, dans l'œuvre et dans ce podcast, de mettre en avant la générosité et la miséricorde d'Alexandre le Grand, comme l'ont déjà fait d'autres artistes. D'autant plus que l'invasion de cette ville a fait 6000 victimes qui périrent suite aux violences romaines, sans oublier les 30 000 autres qui ont été réduits à l'esclavage. Néanmoins, Elisabetta Serrani nous montre que, au-delà de la technique artistique, elle avait aussi des connaissances historiques. Et pour en savoir plus sur cette grande artiste, il nous faut donc savoir plus sur sa vie, et c'est ce que je vous propose de découvrir ici. Alors tout commence à Bologne, le 8 janvier 1638. Aînée de 4 enfants de Margherita Massini et Giovanni Andrea Serrani, à 6, ils vivent au 257, aujourd'hui le 7, de la Via Urbana. Le père peintre, formé par Guido Reni, y a son atelier. L'écrivain, historien de l'art et ami de la famille, Carlo Cesare Malvasia, conscient du talent d'Elisabetta Serrani, conseille au père artiste d'intégrer sa fille dans son atelier et la former. C'est ainsi qu'elle fut ouverte à être formée à la peinture dès son plus jeune âge, comme la majorité des jeunes filles de son époque ayant pour père un artiste. Son intégration et sa formation, comme celle de ses deux sœurs, se fait donc à partir de ses 13 ans dans l'atelier du paternel. Son apprentissage se fait en plusieurs étapes. Dans un premier temps, elle y apprend les bases telles que broyer les pigments, les mélanger, travailler sur certains détails des tableaux de son père, avant de pouvoir réaliser ses propres compositions. La formation de la future artiste ne s'arrête pas là. Au-delà de la formation artistique, le père fait en sorte que ses enfants puissent s'instruire davantage en ayant accès à sa bibliothèque. Ainsi, les enfants profitent non seulement d'une formation artistique littéraire, mais aussi scientifique. Une formation complète tout à fait en accord avec l'époque de la Renaissance. Et au sujet de cette bibliothèque, l'autrice Émile Hamon-Lehour, dans son ouvrage « Elisabetta Serrani, une artiste emblématique à Bologne » aux éditions Le Manuscrit Savoir, écrit « Outre l'apprentissage de ses techniques, elle reçoit un enseignement théorique et une culture littéraire grâce à la grande bibliothèque familiale à usage professionnel, riche en ouvrages littéraires et en œuvres d'art. Cette bibliothèque est une mine culturelle et une manne herméneutique pour elle qui profite de ses œuvres d'art et des 80 ouvrages recensés. Les Métamorphoses d'Ovide, la vie de Plutarque, l'histoire romaine de Dion Cassius, l'histoire naturelle de Pline l'Ancien, etc. » Le père a certainement aussi dû former sa fille aînée à la gestion de la direction d'un atelier, plus précisément la direction de son atelier. Elisabetta, alors âgée de 17 ans, se retrouve à la tête de l'atelier de Giovanni Andrea Cirani. Ce dernier, invalide, atteint de la maladie de la goutte en plus de l'arthrose, n'a pas d'autre choix que de demander à sa fille de lui succéder. Et, accessoirement, continuer à faire vivre la famille. Mais attention, c'est lui qui continue de gérer tout de même les finances. Elisabetta Cirani signe ses œuvres et commence à tenir un carnet afin d'y faire l'inventaire de ses réalisations, empêchant ainsi que celles-ci ne soient attribuées à d'autres artistes comme son père, comme cela fut le cas pour de nombreux autres artistes. Plus précisément, son carnet répertorie les noms des commanditaires, la description des œuvres exécutées ainsi que leur support. On découvre alors que ses clients pouvaient être aussi bien des hommes que des femmes, du domaine public, privé ou religieux, et de milieux différents. On distingue des nobles, des ecclésiastiques, des commerçants, des admirateurs. Les noms des commanditaires nous renseignent sur leur statut social, sur la popularité de l'artiste, mais permettent également de retracer une carte géographique, reflet de la renommée locale, nationale et internationale de la peintre. Écrit Émilie Hamon-Lehour dans Elisabetta Cirani, une artiste emblématique à Bologne, aux éditions Le Manuscrit Savoir. Ce carnet présentait donc environ 190 tableaux et nous permet de savoir que c'est à 20 ans qu'elle décroche sa toute première commande publique, le baptême du Christ. Une peinture religieuse qui, comme nous le savons, est considérée comme étant le best de la classification des genres. À ce sujet, en parlant de la classification, Anne Larue, dans son ouvrage « Histoire de l'art d'un nouveau genre » aux éditions Max Milo, écrit « On sait que ce genre, hautement gradé dans la hiérarchie picturale, est un travail d'homme théâtralisant une iconographie héroïque masculine sous couvert d'histoires bibliques, d'épisodes historiques et l'aussi littéraire, tous tournés vers le même but, déployer une frappante et virile exemplarité. » Et puis, dans son ouvrage « Artiste femme, la parenthèse enchantée » aux éditions CNRS, Séverine Sofio écrit « L'enseignement délivré au sein de l'école est profondément imprégné par cette idée que tous les arts ne sont pas équivalents. Il repose également sur deux principes fondamentaux, l'étude de l'antique et des maîtres de la Renaissance ou de l'âge classique d'une part, et le souci de développer chez les futurs artistes le goût de la distinction d'esprit qui participe du mouvement d'intellectualisation à la profession d'artiste d'autre part. L'enseignement se veut donc avant tout intellectuel et moral. » Elisabetta Cirani avait donc les connaissances nécessaires pour la mener à la réalisation d'œuvres dites importantes, en tout cas les œuvres recherchées et demandées à son époque. Mais revenons maintenant à cette première commande publique demandée par l'église de la Chartreuse de Bologne, la grande huile sur toile de 450 sur 350 cm exécutée par l'artiste en 1658, aujourd'hui présente à l'église San Gilarmo della Certosa à Bologne, représentant la scène du baptême du Christ. Cette scène, racontée par les évangiles synoptiques de Matthieu, Marc et Luc, lui a été inspirée par son père qui avait exécuté 6 ans auparavant une toile similaire. Et au sujet de cette toile considérée comme l'un de ses chefs-d'œuvre, le département de la culture, du sport et de la promotion en charge de l'histoire et la mémoire de Bologne écrit « Cette solution animée semble s'inspirer d'une observation de la vie domestique quotidienne et développe une sensibilité très féminine, donnant à l'œuvre un caractère intimiste très différent du ton officiel du classicisme paternel. » Dans ce travail, elle réintroduit un style néo-vénitien avec un choix de couleurs aux effets lumineux forts, dans lequel la technique de la peinture s'exprime avec des traits épais, de plus en plus libres et vibrants dans un doux passage de peinture. Ceci est bien souligné dans la cape du personnage au turban, dans laquelle les coups de pinceau chevauchent la céruse, donnant un effet chromatique intense et lumineux. Au niveau de la composition, il y a l'intention de suggérer une profondeur spatiale en mettant à l'échelle les groupes de personnages dans la composition encombrée en les déplaçant vers l'arrière, ce qui dans ce cas dénote également une attention aux suggestions de composition de style baroque. Dans la grande toile du baptême du Christ, Elisabetta Cirani a apposé sa signature en majuscule sur la base centrale. Lors de la récente restauration, une autre signature plus petite a émergé sous cette inscription, probablement celle d'origine placée par le peintre. La restauration a également montré des changements d'esprit donnés par le fait que l'artiste a fait ses ajustements directement sur la toile, dans ce cas, malgré ses nombreux dessins préparatoires. Et malgré tout le travail que l'artiste fournissait, des personnes doutaient du fait que ce soit réellement elle qui réalisait de telles peintures. En vrai, j'ai envie de vous dire, certaines personnes doutent du fait que ça soit une femme qui exécute de tels chefs-d'œuvre. Mais pour faire taire ces personnes, Elisabetta Cirani ouvre son atelier aux curieux, les invitant ainsi à visiter son atelier, découvrir ses œuvres comme dans une galerie et la voir travailler à ses futurs tableaux. 2 ans après l'exécution de son chef-d'œuvre, et âgée de 22 ans, la voilà admise à l'Académie di San Luca à Rome. Elle est l'une des premières femmes à y être admise. Cependant, elle se rend vite compte de certaines choses, comme le fait qu'il soit difficile pour une femme de voir des institutions leur ouvrir des portes. Elle décide alors d'ouvrir sa propre école, et elle est la première à faire ça. C'est donc cette même année que l'artiste, consciente de son privilège, soucieuse de transmettre et certainement ambitieuse, décide d'ouvrir son école de peinture dédiée aux femmes. Elle forme plusieurs futurs artistes comme Lucrezia Bianchi, Maria Bibiena Galli ou encore Vicenza Fabri, pour ne citer qu'elle. Mais soudain, voilà que tout s'arrête. Nous sommes le 28 août 1665, Elisabetta Cirani n'a que 27 ans. Elle décède suite à un ulcère à l'estomac, causé par le surmenage, la peinture et autres produits utilisés à cette époque. Pendant longtemps, c'est la servante de la famille, Lucia Totomelli, qui fut accusée de l'avoir empoisonnée. Une talentueuse artiste malheureusement morte trop jeune, laissant derrière elle une multitude d'œuvres exécutées avec passion durant une courte période. La question que l'on se pose aujourd'hui est d'imaginer quel impact auraient eu les œuvres d'Elisabetta Cirani si elle avait survécu à son père et était morte de vieillesse. Écrit Émilie Hamon-Lehour dans Elisabetta Cirani, une artiste emblématique à Bologne. C'est ainsi que l'épisode sur l'artiste Elisabetta Cirani se termine et me permet de conclure cette saison sur les femmes artistes de la Renaissance. Merci pour votre écoute. Comme d'habitude, si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous et lui laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Ça m'aide beaucoup, en plus de me faire plaisir. Je vous retrouve pour la rentrée septembre, avec une nouvelle saison que j'ai hâte de partager avec vous. En attendant, je vous propose de me retrouver sur le compte Instagram @féminin pour plus de contenu. Et n'oubliez pas, @féminin a aussi son site internet où vous pouvez bien sûr retrouver les différents podcasts et aussi des articles. D'ailleurs, le dernier article est sur l'artiste photographe des années 70, Abigail Eman. Belle journée, soirée, à vous.